Bonjour à tous. Donc, dans les séances précédentes, j'ai commencé à analyser les conditions dans lesquelles le retour effectif, pratique du pouvoir exécutif, mais retour pratique sur fond de son déni intellectuel, avait conduit à l'envisager sous un certain nombre de ses formes pathologiques, soit sous la forme de sa polarisation, de son exacerbation avec le modèle de démocratie plébiscitaire qui pouvait basculer, on l'a vu dans le cas allemand, vers des formes de dictature, mais aussi dans le sens d'un déni de la spécificité du pouvoir exécutif pour le considérer sous les espèces de l'exception. Mais je l'ai signalé, il y a également une autre façon d'avoir considéré le pouvoir exécutif, c'est, dans une perspective démocratique, c'est de le sortir de la vision démocratique et de le dégrader en quelque sorte, de dégrader ce pouvoir exécutif en un simple pouvoir technocratique ou pouvoir administratif, et de la sorte de ne pas avoir à poser la question de sa démocratisation. En France, on le sait, pendant la Révolution, le déni de ce pouvoir exécutif s'était naturellement prolongé par un déni du fait administratif. Et d'ailleurs, l'expression péjorative de bureaucratie a été contemporaine de cette période. Et le spectre d'une bureaucratie qui ferait insidieusement obstacle à la suprématie de la loi était aussi fortement redouté que celui d'un pouvoir ministériel également confiscatoire du règne de la volonté générale. On fustigeait dans les deux cas un simple instrument d'exécution qui menaçait de s'ériger en pouvoir propre et de constituer un interface perturbateur de la volonté générale. Tout ce qui faisait écran entre la nation et ses élus était en effet a priori suspect de dresser un obstacle à l'expression de la volonté commune, et donc de constituer une machination contre la liberté. Dès juillet 1789, Peuchet donnait le ton dans son traité de la police et de la municipalité. Et il se plaignait « Le citoyen n'est rien, le commis gouverne. Je ne crois pas qu'il existe un État où l'influence du système bureaucratique soit aussi sensible, aussi absurde, aussi étendue qu'en France. » Il est naturel, poursuivait-il, de regarder des commis comme des hommes payés pour expédier des dépêches. Leurs fonctions paraissent devoir se borner à rendre fidèlement le tableau des hommes soumis à leur direction. Rouages utiles de la machine politique, ils ne peuvent en être les moteurs. Un bureau n'est pas un conseil, et des copistes ne doivent pas s'ériger en administrateurs, en législateurs. C'est cependant ce que nous voyons tous les jours en France, dit-il. Il concluait « Les bureaux ont maintenant remplacé la monarchie ». C'était une expression, d'ailleurs, qui était commune à l'époque. Le terme de bureaucratie était entouré de tout un halo de fantasmes, d'autant plus frappant à nos yeux contemporains que le nombre d'employés dans les ministères parisiens était alors fort réduit, puisqu'on en comptait, en 1791, moins de 700. Et cette hantise de voir constituer un pouvoir intermédiaire entre le peuple et ses élus, atteindra son paroxysme au moment de la Terreur. Robespierre et Saint-Just feront alors adopter toute une série de mesures qui viseront à faciliter la révocation des employés publics, à limiter la durée d'exercice de leurs tâches, à fractionner au maximum leur champ de compétences. Et la dénonciation du bureaucrate, porteur de toutes les menaces de despotisme et de corruption, ne s'opérait cependant pas, comme sur le mode libéral traditionnel, dans l'opposition de deux termes seulement, la bureaucratie contre les citoyens ou l'État contre la société. Cette dénonciation de la bureaucratie renvoyait au rapport entre trois éléments, le représentant du peuple, le peuple lui-même et l'agent public. Et ce que Robespierre et Saint-Just dénonçaient fondamentalement dans la figure du fonctionnaire, c'est l'écran perturbateur qu'elle instituait entre le citoyen et ses représentants. Représentant qu'ils appréhendaient l'un et l'autre, j'ai déjà employé cette formule, comme formant le corps vivant du peuple. Si le terme de bureaucratie évoquait de sombres menaces planant sur l'idéal démocratique, le fait démocratique, le fait administratif n'était en même temps jamais analysé, tant il était supposé ne pas avoir de véritable consistance, ne formant en son essence, comme le pouvoir exécutif, qu'une courroie mécanique de transmission. Il était, d'ailleurs encore plus que le pouvoir exécutif, au service duquel il se trouvait placé, renvoyé à un idéal d'inconsistance. On pourrait même dire que l'administration incarnait pour la doctrine politique française une sorte de quintessence du pouvoir exécutif, parce que expression la plus juste de sa modestie. Et les premiers écrits systématiques consacrés au sujet insisteront longuement sur ce point. Si le gouvernement n'est que l'exécutant de la loi, l'administration n'est elle-même que le bras qui exécute les ordres de cet exécutant. Pour le dire autrement, elle est le gouvernement considéré dans son action partielle et ses détails. Exécutante de l'exécutif, l'administration ne constitue un objet que sous les espèces de son possible dévoiement, de son débordement fonctionnel, ou à l'inverse, sur le mode le plus strictement matériel. Positivement pour considérer ses méthodes de travail, la gestion des registres, l'enregistrement des correspondances, le classement des fiches de toute nature, la tenue et l'archivage des dossiers, du point de vue de ce qu'on a appelé dès cette période, au début de la Restauration, la science de l'ordre, ou négativement, pour dénoncer la maladie de la paperasse. La science de l'ordre, c'est le titre d'un essai de Auguste-Étienne Julien, plus précisément Essai sur l'ordre, qui est justement un ouvrage technique sur la gestion du nouveau monde de l'administration, des correspondances et des papiers. Et dès le début du XIXe siècle, on le sait, la dénonciation de la figure du bureaucrate deviendra presque un genre littéraire à part entière, dont Paul-Louis Courier et quelques autres seront les plumes fameuses. Il faut par exemple mentionner, notamment, parce que c'est un peu moins connu, le succès remporté par Humbert, un ancien chef de bureau au gouvernement, au ministère de la guerre, qui publiera successivement « L'art d'obtenir les places » en 1816 et surtout un livre qui fera école « Les mœurs administratives » en 1825. Et Balzac, on le sait, fera successivement paraître « Les employés et physiologie de l'employé » dans la même veine en 1837 et 1841. Des foules d'autres brochures et libelles ressasseront à l'envi les mêmes critiques. La circulaire comme maladie organique de l'administration, la recherche systématique de la complication des choses simples et la vie confortablement protégée de l'employé. Ces dénonciations répétitives de l'administration ont témoigné d'une profonde incapacité à situer le fait démocratique dans l'ordre démocratique, ainsi que de l'incompréhension des raisons de son développement. Du petit glossaire administratif de Boucher de Perthes à Messieurs les Ronds de Cuir, beaucoup plus tard de Courteline, l'humour a accompagné l'impuissance des Français à saisir intellectuellement la croissance de la bureaucratie dans le monde moderne. L'approche pathologique et satirique du problème a conduit à ne pas en analyser la dimension sociologique. Si l'on voit par exemple sans cesse dénoncer la prolifération réglementaire, on ne trouve presque aucune réflexion sur le fait qu'elle provenait pour une large part de la recherche d'une gestion uniforme qui, pour saisir toute la diversité des situations, doit sans cesse ajuster et reprendre la règle. On a brocardé la bureaucratie parce qu'on n'a pas su la penser et qu'on a, au fond, toujours rêvé, comme je l'ai déjà mentionné, d'un pouvoir exécutif simple, léger, presque transparent, dont les organes seraient réduits à une pure opération de transmission et d'action. Même les voix les plus autorisées ont alors participé de cette illusion fondatrice. Sous la monarchie de Juillet, Vivien, le préfet de police, qui a publié des célèbres études administratives qui ont longtemps fait référence en France, notait « Le pouvoir exécutif se divise en deux branches. La politique, c'est-à-dire la direction morale des intérêts de la nation, et l'administration, qui consiste principalement dans l'accomplissement des services publics. » Et il précisait « Sous le gouvernement constitutionnel, la politique elle-même passe en partie aux assemblées législatives. Plus le pouvoir parlementaire grandit, plus il fait invasion dans la politique. Il l'attire à lui presque tout entière et ne laisse au pouvoir exécutif que ce qui est matière de négociation, d'études et de mise en œuvre plutôt que de délibération et de décret. C'était donc dire que dans l'essence du pouvoir exécutif, qu'il analysait lui comme consistant, il voyait cet exécutif en quelque sorte séparé en deux. D'un côté, l'exécutif était de l'ordre de la politique, mais à ce moment-là, c'est le pouvoir parlementaire qui avait cette fonction. Et de l'autre, il y avait simplement la gestion des services, et à ce moment-là, c'était l'administration. Donc l'exécutif n'existait plus en lui-même, il était réduit à l'administration d'un côté et à la politique parlementaire de l'autre. La conséquence de cette impensée de la spécificité de cette fonction administrative dans l'ordre démocratique a d'abord résidé dans le fait de la soumission totale de l'administration au pouvoir politique. Aucune autonomie, aucune fonctionnalité propre ne lui étant reconnue dans ce cadre. Il n'était évidemment pas question de doter de ce qu'on appellera plus tard un statut les employés de l'administration. Ils étaient en fait nommés à la discrétion des ministres et leur carrière était totalement dépendante de leur bon vouloir. Les premiers à se plaindre de cette situation seront naturellement les employés eux-mêmes. Et toute une série de brochures publiées sous la Restauration et la Monarchie de Juillet se feront l'écho de cette insatisfaction. C'est même, pourrait-on dire, la naissance presque des associations syndicales de fonctionnaires, avec la publication de La France administrative, la Gazette des bureaux, avec comme sous-titre La boussole des administrés, sous forme mensuelle, qui sera publiée à partir de 1840 et qui se donnera pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des employés de l'État. Toute cette littérature permet de mesurer le rôle dominant de ce qu'on a appelé alors du mot célèbre de favoritisme, du rôle dominant de ce favoritisme dans le recrutement et la gestion des personnels de l'époque. Avec son revers, la préférence pour le clientélisme au détriment de la capacité professionnelle. Émile de Girardin pourra ainsi écrire en 1841 dans son essai de l'instruction publique en France que, je le cite, la carrière administrative est la seule dont les abords sont livrés sans défense aux prétentions de l'ignorance et à la présomption d'incapacité. Il est paradoxal de constater que la France, réputée terre de tradition étatique, a été au milieu du XIXe siècle dotée d'une administration beaucoup moins rationnellement organisée et d'administrateurs beaucoup moins bien formés qu'en Allemagne ou en Angleterre. Dès 1727, l'État prussien avait par exemple fondé des chaires de caméralistique pour préparer ses administrateurs à leurs tâches. Et le retard français sur l'Allemagne et sur l'Angleterre, qui est patent au début du XIXe siècle, a en fait subsisté jusqu'à l'aube du XXe siècle. On le voit très clairement en matière d'organisation de la fonction publique. La Prusse a établi en 1873 un statut des fonctionnaires qui leur garantissait l'emploi à vie et codifiait en même temps très strictement toutes les procédures d'avancement et de recrutement, alors que rien n'était alors régularisé en France. Outre-Manche, le fameux rapport Trevelyan-Northcote avait tracé dès 1855 les grandes lignes d'organisation du civil service et le principe du recrutement par concours des administrateurs avait en Grande-Bretagne officialisé en 1870. Et même dès le milieu des années 30, il y a eu des systèmes d'examen pour rejeter au moins les incompétences les plus flagrantes. En France, on le sait, il faudra attendre 1945 pour que les fonctionnaires soient dotés d'un statut et que le recrutement des hauts fonctionnaires soit réglé avec la création de l'ENA. Il y a certes eu une dimension proprement syndicale à cette question. Et c'est d'ailleurs par ce biais, sous la pression des syndicats et des associations, que la réforme sera finalement adoptée. Mais nullement pour répondre à une conception démocratique du pouvoir administratif. On a de la sorte fini par accepter en pratique ce que l'on refusait intellectuellement. C'est cela qui a fondé l'histoire paradoxale de l'administration française. Et c'est pour cela qu'ont longtemps été évacués tous les projets qui visaient à donner un cadre réglementaire aux conditions d'avancement dans les fonctions publiques, comme on disait au XIXe siècle. Le fond du problème est qu'on craignait que des réformes dans ce domaine n'affaiblissent la responsabilité ministérielle et ne limitent tant la liberté de la Chambre que celle du gouvernement. La réticence était générale. Un célèbre pamphlétaire républicain, Timon, qui en fait était le nom de plume de Cormenin, Cormenin qui sera le secrétaire de la commission de constitution de 1848 et qui sera un des fondateurs du droit administratif en France, Cormenin avait ainsi écrit dans un de ses pamphlets qui avait pour titre « La légomanie ». Il disait « Nous ne voyons pas trop ce que nous gagnerions à avoir des expéditionnaires inamovibles, les expéditionnaires, c'était les fonctionnaires de base, disons, nous ne voyons pas ce que nous gagnerions à avoir des expéditionnaires inamovibles sous des ministres amovibles, qu'ils aient les coudées larges et qu'ils puissent se mouvoir, ces ministres, avec essence dans le cercle de leur action. » Les républicains et conservateurs se retrouvaient à cette époque, comme ce sera toujours le cas jusque dans les années 30, pour faire échec à ce qui pouvait conduire à la mise en place d'un pouvoir administratif. Les conservateurs au pouvoir craignaient qu'une administration trop indépendante ne vienne pratiquement limiter leurs prérogatives de gouvernants, et les milieux d'opposition redoutaient une force qui serait insuffisamment contrôlée par le pouvoir législatif. La mainmise du pouvoir politique sur l'administration était comprise en France comme une évidence républicaine, d'où la légitimation démocratique des épurations périodiques dans la haute administration. L'épuration, malgré son coût en termes de désorganisation, est apparue à chaque fois comme le moyen naturel de maintenir l'administration dans son rôle de simple commis de la loi. Depuis Napoléon et tout au long du XIXe siècle, le service de l'intérêt général a ainsi été subordonné à des critères d'identification politique au pouvoir en place. La prestation d'un serment de fidélité au régime a d'ailleurs longtemps été pratiquée pour les hauts fonctionnaires. Une étude a même recensé 60 formes de serment de ceux-ci dans l'histoire constitutionnelle française. Essentiellement pour le XIXe siècle, au XXe, seul le régime de Vichy fera exception avec les prestations de serment qu'il avait prévues. Ce principe d'identification visant à former un système politico-administratif d'un seul bloc a conduit sous la monarchie de Juillet au développement des députés fonctionnaires. Si de nombreuses voix se sont alors élevées pour déplorer la corruption qui en résultait, il est significatif qu'aucune critique n'ait alors été menée du point de vue d'un quelconque principe de l'autonomisation de l'administration. Lorsque, prenons un exemple, lorsque Ledru-Rollin écrivait, qui était ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire, écrivait au printemps 1848 au préfet, dans une de ses fameuses circulaires, il leur disait « Prenez comme règle que les fonctions publiques, à quelque degré de hiérarchie que ce soit, ne peuvent être confiées qu'à des républicains éprouvés. » Il ne choquait que les adversaires du gouvernement provisoire. Les protestations étaient purement politiques et circonstancielles. Car sur le fond, Saint-Just, Napoléon, Guizot, Ledru-Rollin, Napoléon III ou Waldeck-Rousseau parlaient le même langage. Ils ont eu une conception identique de la place de l'administration dans le dispositif politique général. Cette vision transparente du rôle de l'administration a également conduit à minimiser sa responsabilité vis-à-vis de la société. Le raisonnement en la matière est simple à saisir. Si l'administration est une puissance purement exécutrice des lois, elle ne saurait donc causer aux citoyens d'autres dommages particuliers que ceux qu'implique l'application de la volonté générale et la poursuite de l'intérêt commun, les cas d'exécution inadéquate de la loi étant de leur côté limités par le caractère mécanique purement commis de l'administration. Et les constituants de 1789 ne s'intéressèrent absolument pas, pour ce motif, aux problèmes contentieux qui pouvaient survenir entre l'État et les citoyens. Ils imaginaient, tout simplement, que le gouvernement de la volonté générale réduirait considérablement les occasions de litige entre l'administration et les particuliers. Et ils estimèrent qu'une juridiction ordinaire ne pouvait, en tout état de cause, pas être saisie par un particulier qui s'estimerait lésé, dans la mesure où cela serait revenu à nier la séparation des pouvoirs et l'autonomie du pouvoir exécutif qui n'avait à être soumis qu'à la puissance de la loi. La théorie de la souveraineté de la nation a paradoxalement ainsi conduit à exalter le citoyen et à désarmer l'administré. Ce que montrera très longuement, au début du XXe siècle, l'ensemble des commentaires que fera sur ces questions le grand juriste Maurice Auriot. Toute une série de textes révolutionnaires ont ainsi consacré le principe de l'indépendance judiciaire de l'administration. Un décret du 22 décembre 1789 stipulait par exemple que les administrations de départements et de districts ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. La loi des 16 et 24 août 1790 formalisera cette séparation en notant, je cite, que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. L'impunité était garantie, car punir le fonctionnaire, ça aurait été punir la loi. Et la crainte d'un retour aux pratiques des parlements de l'Ancien Régime a en partie, il est vrai, expliqué cette position. Mais elle a aussi parfaitement été accordée à la conception de la démocratie qui s'était affirmée en 1789. Et c'est là que se trouve le fondement de la fameuse doctrine selon laquelle juger l'administration, c'est aussi administrer. Et si un embryon de justice administrative était mis en place par le consulat en l'an 8, avec la création du Conseil d'État et des conseils de préfecture, ces règles de fonctionnement ont fait que l'administration a fini par se contrôler elle-même. Ce n'est donc pas l'intervention d'un juge, c'est l'intervention d'un régulateur fonctionnel. Et l'article 75 de la Constitution de l'an 8, qui stipulait, je cite, que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour les faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État, a consacré le principe général de l'irresponsabilité des fonctionnaires. Et loin d'être remis en cause, ce système fut au contraire consolidé sous la monarchie parlementaire et également reproduit et reconduit en 1848. Le raisonnement de 1789 a même, d'un certain point de vue, été alors paradoxalement durci. Puisque les chambres étaient supposées contrôler plus attentivement qu'auparavant les ministres, l'administration était donc moins susceptible de nuire aux citoyens. C'est pourquoi un projet de 1845 qui visait à réformer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires publics pouvaient être poursuivis par les citoyens quand ils s'écartaient des lois, fut impitoyablement rejeté. Et Tocqueville était alors bien seul pour écrire que le droit de poursuivre les agents du pouvoir devant la justice, ce n'est pas une partie de la liberté, c'est la liberté même dans ce qu'elle a de plus clair et de plus tangible. Et ce point de vue, alors, aucun autre député ne l'a soutenu à l'Assemblée. Et tout en restant dans le cadre théorique de l'administration, juge de l'administration, il a fallu attendre tardivement, 1872, pour qu'une loi établisse la séparation des administrations actives et contentieuses, en permettant au Conseil d'État, donc, de statuer au contentieux dans une formation différente des conditions de son action d'administration active de conseil, et ainsi de pouvoir trancher lui-même certains litiges sans intervention du chef de l'État. Il faudra même attendre 1889 pour qu'il y ait la possibilité de recours direct devant le Conseil d'État, c'est-à-dire très tardif. C'est de là que partait la France à l'aube du XXe siècle. La célébration du pouvoir technocratique à laquelle se livreront de nombreux esprits réformateurs après la Première Guerre mondiale marquera donc une formidable rupture intellectuelle et politique. La reconnaissance de la centralité de l'exécutif a en effet alors marqué une forte rupture avec le double déni précédent, déni de l'exécutif et déni du pouvoir administratif. Mais elle l'a fait sur un troisième mode, celui d'une célébration technocratique de ce pouvoir administratif. L'antiparlementarisme et la dénonciation des appareils politiciens ont en effet conduit, après la Première Guerre mondiale, à voir dans l'autonomisation de la machine administrative la forme adéquate d'un pouvoir exécutif efficace. Et cette appréhension s'est organisée autour de deux grands thèmes qu'il convient soigneusement de distinguer, même s'ils se sont largement liés. En premier lieu, cette appréhension du pouvoir technocratique a correspondu au projet d'une rationalisation de l'État, envisagé donc dans une perspective managériale. Donc, on peut dire, une approche managériale du pouvoir technocratique. Mais en second lieu, le projet de constituer un pouvoir administratif tirant sa force et sa légitimation de sa dépolitisation, compris là de façon institutionnelle et politique. Le pouvoir technocratique a donc deux pieds, un pied managérial et un pied antipolitique, pourrait-on dire, antiparlementaire même. Et ils ont, ces deux approches, formé les deux volets de l'idéal que l'on a qualifié à partir des années 30 de technocratique. Mais on peut en suivre la Constitution dans les différents cas, français autant qu'américain d'ailleurs, en commençant par examiner la première dimension managériale de rationalisation de l'État et de politique scientifique. En Amérique, c'est dès la fin du XIXe siècle que l'on trouve fortement formulé le projet de constituer une administration rationnelle pour donner corps à un pouvoir exécutif efficace. Deux noms ont symbolisé l'exploration de cet impératif, ceux de Wilson, futur président, et de Frank Goodnow, qui était un professeur à Columbia. Le premier avait publié en 1887 un article pionnier, l'étude de l'administration, et son but était de proposer ainsi la fondation d'une science nouvelle, ce qu'il appelait le gouvernement pratique. Au point de sa démarche, un constat, celui des limites de la science politique traditionnellement contenues aux questions constitutionnelles. Dans une société complexe, expliquait Wilson, la question de la démocratie ne peut pas se limiter à débattre de l'écriture de la Constitution, à déterminer quels sont les droits, à constituer le mode de promulgation des lois, à organiser les élections. La mise en œuvre de l'intérêt général, insistait-il, requiert d'aller plus précisément et plus pratiquement au cœur des choses pour les traiter. Et c'était sa façon de reconnaître la centralité du pouvoir exécutif. Mais il le faisait en mettant l'accent sur la pragmatique de celui-ci. Si l'administration n'est théoriquement que le vecteur d'une application de décisions prises dans l'ordre, lui, politique, Wilson avait souligné que les choses étaient devenues beaucoup plus complexes dans le monde moderne que cette ancienne vision de la courroie de transmission mécanique. La définition d'objectifs dans ce monde moderne n'est en effet pas séparable des questions quotidiennes, multiples et complexes, posées par leur mise en œuvre. Il fallait donc pour lui constituer une science de l'administration, par souci d'efficacité et par exigence démocratique. Et dans cet article pionnier, Wilson avait ainsi posé tout un ensemble de questions qui seront ensuite développés beaucoup plus longuement, en fait, qu'il ne l'avait fait. Cet article est souvent cité parce qu'effectivement, il est le premier à poser la question, mais il n'a pas développé un traité systématique de cette science administrative qu'il appelait de ses voeux. Ceux qui développeront cette science administrative, c'est tout un ensemble d'universitaires, de juristes ou de politistes qui feront partie du Progressive Movement. Le Progressive Movement, je l'ai déjà expliqué, c'est le mouvement de réforme né dans l'Amérique des années 1890 et qui ira jusqu'au moment de la Première Guerre mondiale et qui proposera tout un ensemble de réformes. C'est le mouvement qui proposera notamment des réformes démocratiques conduisant à l'adoption de procédures comme celle du référendum ou la mise en place de primaires. Mais aussi, autour de cette idée du mouvement progressiste, on trouvera tout un courant de réflexion sur l'administration, essayer de repenser le pouvoir exécutif à partir de sa constitution scientifique. Dans un ouvrage essentiel sur le sujet qui était publié en 1900, « L'administration et la politique », Goodnow, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était professeur à Columbia, il y avait tout un milieu intellectuel qui travaillait dans cette direction autour de lui, a ainsi revisité la théorie classique de la division des pouvoirs avec le souci de partir des pratiques pour en comprendre le fonctionnement. Comme beaucoup dans sa génération, il était obsédé par le souci de revenir à la vie réelle et de rompre avec les appréhensions routinières et électoralistes de la démocratie qui lui semblaient enfermées dans des schémas soit purement techniques, soit normatifs. Et le champ politique devait pour lui se borner à l'œuvre législative et constitutionnelle, alors que la sphère de l'administration était celle du pouvoir proprement exécutif. Il n'y a pas de pouvoir exécutif véritable s'il n'est pas pensé comme une administration, avec ses règles, avec sa constitution rationnelle. Si l'essence du politique consiste par construction à tenter d'exprimer une volonté générale, l'essence de l'administration résidait pour lui dans la poursuite de l'efficacité et de la rationalité, une autre approche de la généralité. Il y avait donc les deux plans sur lesquels la généralité se posait, la généralité de la volonté et puis la généralité de l'organisation, de la rationalité. Et l'administration ne pouvait pour lui construire ce qu'il appelait sa perfection exécutive que sur un mode interne d'organisation, alors que la perfection législative reposait, elle, tout entière sur sa dépendance vis-à-vis d'une volonté externe, celle de la souveraineté populaire. Donc c'était deux modes de construction, l'un interne, l'autre externe. Et c'était bien deux modalités du rapport à la généralité qui distinguait administration et politique. Généralité que l'on peut qualifier de substantielle du côté de l'administration, c'était d'un certain point de vue renouer avec les visions hegeliennes anciennes, qui étaient des visions philosophiquement qui avaient été constituées, mais qui n'avaient pas joué de rôle en politique, du corporatisme de l'universel, avec le souci d'exclure, pour définir l'administration dans son action juste et démocratique, tous les dévoiements de la particularité, alors que l'ordre politique était gouverné par la généralité procédurale, fondée sur la recherche d'une capacité à inclure le plus grand nombre possible de citoyens dans l'expression aussi unanime que possible d'une volonté collective. Tenir compte des réalités, c'était pour Goodnow prendre acte de l'autonomie du phénomène administratif et donc en fixer clairement le ressort légitime, la capacité d'expertise et d'efficacité. Et donc face à la difficile démocratie subjective de la volonté qui était issue des urnes, il fallait ainsi faire vivre ce qu'il appréhendait comme une démocratie objective de la raison dans l'ordre du fonctionnement administratif. Dans un pays où elle n'existait pas vraiment, l'accent était ainsi mis sur la nécessité d'édifier une véritable administration, gardienne et servante en même temps du bien commun. Ces qualités d'efficacité et de rationalité devraient, pensait-on, garantir son objectivité. C'est ce qui explique la mystique, il n'y a pas d'autre terme que celui de mystique qu'il convient d'appliquer à ce moment-là, la mystique rationalisatrice que les progressistes américains ont développée au tournant du XXe siècle. La raison et l'efficacité ont alors été introduites au cœur du panthéon des vertus démocratiques. Un Charles Fergusson, qui était à la fois un sociologue et un syndicaliste du mouvement progressiste, avait foi dans la fusion d'idées de démocratie politique et de celle d'efficacité. Et un gouvernement d'experts dessinait pour lui la voie positive de l'avenir. La démocratie, je le cite, n'est pas la domination de la majorité, mais la domination de ceux qui se mettent délibérément au service des autres. Donc c'était bien clairement opposer une définition substantielle et une définition procédurale. Considérant de son côté, je la cite, la démocratie comme une méthode et même une technique scientifique pour dégager la volonté du peuple, une autre grande figure du Progressive Movement, Mary Follett, qui d'ailleurs était proche de Fabien Anglais, qui sera une des grandes théoriciennes du scientific management, parlait de l'avènement d'un nouvel âge du politique avec la constitution d'une administration rationnelle. Avec Ferguson ou Mary Follett, que je prends comme deux exemples significatifs de ce mouvement, l'heure était à la célébration d'une démocratie réelle, celle, disait-il, du développement de la production et du bien-être social, à distance de la vieille démocratie jugée étroitement électorale. Et les revues de sciences politiques ont alors significativement multiplié les articles sur la gestion rationnelle. Un mouvement, un véritable mouvement social et culturel s'est même constitué aux États-Unis autour de cette célébration d'efficacité. Elle a eu ses journaux comme l'Efficiency Magazine ou le Journal of Efficiency Society, ses associations pour étudier et décliner tous ses bienfaits. C'est dans le contexte de cette préoccupation et de cet enthousiasme que l'œuvre de Taylor a trouvé son origine. Celui qui allait révolutionner le fonctionnement des organisations modernes a à la fois été le rejeton et le symbole de cette fièvre de la rationalité. Et l'énorme succès rencontré par ces Principles of Scientific Management, dès leur publication en 1911, s'explique de cette façon. Et son œuvre a ensuite joué en retour un rôle d'accélérateur dans la diffusion de ces idées rationalisatrices. Mais si l'attention se porte aujourd'hui essentiellement sur les applications industrielles des préceptes de Taylor, il ne faut pas oublier l'origine proprement politique de cet idéal rationalisateur. Avant même que les entreprises ne se convertissent au taylorisme, c'est d'ailleurs dans l'administration fédérale que seront mis en place tout un ensemble d'organismes au titre évocateur. La Commission on Economy and Efficiency, le Bureau of Efficiency, la Commission on Department Methods. Beaucoup de ces institutions vont être celles, en fait, qui vont organiser l'administration américaine moderne. Et la construction d'une bureaucratie impersonnelle et rationnelle a alors bien été perçue comme une entreprise au service de l'intérêt général. Un gouvernement scientifique, la mise en place d'une administration scientifique, pensaient les progressistes américains, serait en même temps un facteur d'ordre et de démocratie. Il y avait, il est vrai, une indéniable dimension sociologique dans cette profession de foi. Elle correspondait à la montée en puissance en Amérique de ce qu'on a appelé les professions dans tous les domaines, qu'il s'agisse des médecins spécialisés, des universitaires, des journalistes, des comptables, et aussi, bien sûr, de tous les métiers dans l'administration. De plus en plus de métiers se seront alors professionnalisés avec la reconnaissance des diplômes, l'adoption de codes de conduite, la constitution d'associations, l'édition de journaux spécialisés. Tous ces éléments contribueront à structurer des filières et des milieux et à fondre les individus dans leurs fonctions sociales et à les protéger et à accroître leur pouvoir aussi. Cette montée en puissance des professions donc s'est retrouvée aussi en Amérique dans le monde administratif, avec cette idée que les professions étaient celles qui défendaient une fonction sociale, qui accomplissaient une fonction sociale et pas simplement un métier. Et l'appel à rationaliser l'administration s'est donc naturellement glissé dans cette démarche. Même si on visait plus largement le contenu et les effets directement politiques d'une telle administration plus efficace et plus autonome. Et des grandes figures de journalistes ou de sciences politiques du mouvement progressiste comme Walter Lippmann ou Herbert Crowley, avec leur livre par exemple pour le premier Progressive Democracy et pour le second Preface to Politics, seront pleinement acculturés cet éloge de la raison experte en l'incluant dans une sensibilité démocratique, d'ailleurs assez sentimentale, typiquement américaine. En France, c'est la Première Guerre mondiale qui servira de déclencheur, même si Taylor avait été lu avec passion avant le déclenchement du conflit. Et un historien a parlé en ce sens de tournant taylorien de la société française. Nous avons été sauvés malgré l'État. C'est ce mot fameux qui a résumé le sentiment de l'époque, conduisant à jeter un regard neuf et positif sur l'administration. Les impératifs de réorganiser l'administration et d'industrialiser l'État seront alors formulés de plusieurs côtés. Et là, bien sûr, il faut faire référence à l'œuvre de Fayolle, le principal disciple, même si ce n'est pas simplement disciple, français de Taylor, qui, en publiant juste après la guerre sa doctrine administrative de l'État et un ouvrage, une monographie consacrée au PTT, l'incapacité industrielle de l'État, donnera le ton d'une réflexion qui a traversé de manière diffuse l'ensemble de la société française. Dans son rapport sur le fonctionnement des PTT, qui était alors une administration, il avait rendu de façon très intéressante un verdict accablant sur les vices d'administration du système existant, en montrant qu'il y avait à la tête de l'entreprise un sous-secrétaire d'État, et non pas un manager, sous-secrétaire d'État qui est jugé instable et incompétent. Il y avait intervention excessive des parlementaires. Il s'était fait remettre les correspondances qui montraient qu'en matière d'emploi, par exemple, c'était les recommandations qui dominaient dans les recrutements, montrant en même temps qu'il y avait un manque d'absence de programmation à long terme, qu'il n'y avait pas d'indicateur de gestion ni de stimulant pour le personnel. Mais ces PTT, pour lui, n'étaient pas simplement, comme un rapport de la Cour des comptes, une administration malade. Elles n'étaient que le symbole d'un mal qui atteignait l'ensemble de l'appareil d'État. Le remède pour lui, il était simple, il fallait introduire dans l'État les procédés qui avaient favorisé le succès des entreprises industrielles. Une expression qui ne sera pas loin de celle qu'avait employée, quelques années auparavant, Léon Blum dans ses lettres sur la réforme gouvernementale. C'est-à-dire pour lui, organiser l'administration selon les nouveaux principes de gestion rationnelle dont il s'était fait le théoricien dans un ouvrage paru au milieu de la guerre, L'administration industrielle et générale de 1916. Et l'organisation était bien pour lui la variable stratégique clé du XXe siècle naissant. J'ai parlé de la célébration du leadership, de l'intérêt pour le chef pendant cette période, mais cet intérêt est inséparable de celui de l'organisation, d'être le carrefour de mise en place de cette organisation. Et cet impératif de rationalisation, c'est une expression qui fait alors fureur, était partout affiché comme une nécessité absolue. Et c'est ainsi que, des deux côtés de l'Atlantique, s'est imposé l'idéal de compétence. Et c'est aussi de cette façon que la vision technocratique a voulu fonder sa légitimité, en opposant, très simplement, le nombre et la raison, pour faire de cette dernière une figure avancée de la généralité sociale. On sait dans l'histoire de la démocratie à quel point la réflexion sur la capacité de l'électeur a été centrale. Et le suffrage universel l'a emporté, non pas en considérant que l'électeur a une capacité fonctionnelle, a une capacité technique, mais en considérant que l'électeur a une capacité citoyenne, une capacité d'intervenir à égalité avec les autres dans la définition du bien public ou dans la considération pour la moralité des personnes qui sont soumises à son suffrage. Mais à côté de cette capacité civique générale, s'imposait aussi, pensait-on à partir de cette période, la capacité technique, Alors qu'au temps du libéralisme doctrinaire, au temps du suffrage censitaire, la question de la capacité était vue de façon unique. La question de la capacité se déclinait dans les différents domaines de la vie sociale, qu'il s'agisse de la démocratie ou qu'il s'agisse de l'administration, qu'il s'agisse bien sûr de l'entreprise et des professions. Mais là, s'opérera cette distinction du nombre et de la raison, non pas entre vision démocratique et vision censitaire, mais entre vision technocratique qui doit régner dans un certain domaine de la réalité et vision démocratique qui doit régner dans un autre domaine. C'est donc dans une séparation des sphères de l'activité sociale, à partir d'une vision de cette séparation des sphères de l'activité sociale, que va se faire une réintégration dans l'ordre démocratique de l'ancienne problématique des capacités. Et les thèmes de l'efficacité de l'administration rationnelle retrouveront de la sorte le vieux culte des capacités dont les doctrinaires s'étaient faits au début du XIXe siècle les premiers théoriciens. Et c'est aussi par ce biais que le pouvoir administratif exécutif, appelons-le comme ça, s'est retrouvé consacré dans sa centralité en Amérique comme en France. Faute de savoir ou de vouloir penser démocratiquement le gouvernement, c'est sous ces espèces d'un pouvoir technocratique que l'exécutif a trouvé intellectuellement sa place des deux côtés de l'Atlantique. Il faut en outre souligner là que l'idéal d'un gouvernement scientifique s'était aussi imposé dès le lendemain de 1917 en Union soviétique. Lénine associait cette idée de gouvernement scientifique, comme Marx avant lui, à l'utopie de la substitution d'administration des choses au pouvoir sur les hommes. Lénine s'était ainsi complètement retrouvé dans la visée de Taylor, qui estimait, je le cite, que dans le système de direction scientifique, le pouvoir arbitraire, le commandement dictatorial disparaît, car chaque problème, qu'il soit important ou non, fait l'objet d'une étude scientifique afin d'être résolu de façon objective. Ça n'était donc pas simplement un partage du règne de capacité de la sphère de la capacité et de la sphère politique, c'était aussi une reconsidération de la notion même de ce qu'on appellerait en termes weberiens la domination. L'organisation scientifique changeait les termes de la domination, du pouvoir sur autrui. Voilà quelle était la grande leçon de Taylor qui fascinait tant Lénine. Mais le paradoxe, c'est que le maître de l'URSS interprétera rapidement le taylorisme justement comme son inverse, c'est-à-dire comme la mise en œuvre d'une discipline de fer et la soumission inconditionnelle à la volonté des dirigeants, l'usine devenant la métaphore d'un monde nouveau. Il écrivait ainsi dans Que faire ? C'était un texte antérieur, bien sûr. La société tout entière ne sera plus bientôt qu'un seul bureau et un seul atelier. L'usine parfaite, grand automate rationnel, fonctionne ainsi dans la doctrine léniniste comme une école de discipline prolétarienne et, en même temps, un modèle de société socialiste. Et le sacre des capacités prendra dans ce cas la forme d'un commandement absolu du parti censé incarner la vision scientifique du monde. Le commandement du parti ne se fera pas sur la base d'une vision politique étroite, majoritaire, mais se fera sur le fait que le parti possède la connaissance du monde, possède une vision scientifique qui l'autorise à remplir ce rôle. Et c'est donc dans cette vision du parti comme détenteur de la vision scientifique du monde que sera enracinée toute la vision léniniste. Mais la célébration du pouvoir administratif, je l'ai signalé, n'a pas simplement marché sur le pied de la défense de la rationalité. Elle a aussi été indissociable de la montée en puissance de l'antiparlementarisme et de l'antipolitique pendant cette période. Antiparlementarisme et antipolitique avaient plusieurs dimensions. Ils étaient d'abord alimentés par la dénonciation classique de la corruption des politiciens. Et des scandales comme celui de Panama avaient ainsi canalisé en France un rejet du monde politique. Et en Amérique, C'est la mainmise des partis sur les affaires publiques qui était partout dénoncée. Voir la série télévisée sur Canal+, sur les bosses à Chicago actuellement. Les grandes villes étaient alors presque toutes, en effet, contrôlées en sous-main par celui qu'on appelait le boss, le chef de la machine politique du parti au pouvoir. Et le maire, qui était élu, n'était le plus souvent qu'un des sous-ordres du boss. C'était lui, ce boss, qui imposait les recrutements, faisait les positions, contrôlait les décisions. Et le système alimentait partout une corruption omniprésente. Ce mal-gouvernement des villes symbolisait ainsi, en exacerbant ses traits, les dysfonctionnements de la démocratie américaine. Ce qui sera dénoncé dans un ensemble de livres chocs, notamment par des journalistes comme Lincoln Stephens, par exemple, dans son livre « The Shame of the Cities », et bien d'autres reportages montreront ces effets de la corruption. Et on peut dire que la dépolitisation de l'intérêt général était du même coup considérée comme la voie d'avenir pour la réaliser. Puisque la politique était le chemin de la corruption, il fallait dépolitiser le système pour réaliser l'intérêt général. Et la stigmatisation de l'incompétence du monde politique, qui était souvent simultanément dénoncée, conduisait de nombreux esprits à la même conclusion. Charles Benoît avait ainsi fameusement dit, c'est une phrase qui sera souvent reprise en France à l'époque, « N'importe qui étant bon à n'importe quoi, on peut n'importe quand le mettre n'importe où. » C'était la façon qu'il voyait la gestion de l'administration française. Et ce qui était qualifié d'amateurisme ministériel était ainsi déploré en permanence dans l'Hexagone après la Grande Guerre. On y reprenait sur tous les tons la dénonciation d'une façon d'être et d'agir du monde politique qui avait été accusé par Émile Fayet en 1911 de pratiquer ce qu'il appelait le culte de l'incompétence. Qu'est-ce qu'un politicien, avait ainsi demandé Fayet, c'est un homme nul pour ce qui est des idées personnelles, médiocre comme instruction, partageant les sentiments généraux et les passions générales de la foule, et enfin, qui n'a pas d'autre métier que de s'occuper de politique et qui, si la carrière politique lui manque, meurt de faim. On entendait là aussi le même son de cloche aux États-Unis. Le monde politique était partout vilipendé pour ne poursuivre que des formes et des considérations vraiment pas générales. D'où la célébration des principes d'impartialité et de compétence à côté de ceux de rationalité dont seule l'administration semblait pouvoir être porteuse et capable, du même coup, d'incarner l'entrée dans un nouvel âge de l'expression et de la gestion de la volonté générale. En Amérique, le mot d'ordre du Progressive Movement n'était pas simplement celui du Scientific Management. Il était aussi celui, je cite l'expression, d'extirper le virus politique, accusé d'avoir alimenté la corruption et démoralisé les citoyens. Il fallait donc détrôner le boss, qui était le symbole de tous les maux. La solution, l'idée majeure, était d'abord d'éliminer le caractère partisan des élections municipales, en les soustrayant à la coupe des partis, en les démocratisant d'abord, par exemple en recourant aux primaires, ce qui était une façon de limiter le pouvoir des appareils partisans, mais aussi en les concentrant dans les mains de commissions aux prérogatives élargies directement responsables devant les citoyens. Les possibilités de manipuler les pouvoirs, lorsqu'ils étaient plus éparpillés entre de multiples départements spécialisés, dont le boss tirait les ficelles, s'en trouverait, estimait-on, du même coup réduite. Et ce fut aux États-Unis l'introduction de ce système du « government by commission », adapté dans bien des municipalités. Si vous voulez en avoir une idée, ça ressemble un petit peu à ce qu'était la formule des podestà dans les cités italiennes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'était une commission, un city manager, qui était fonctionnellement payé pour gérer l'intérêt général. Il y avait donc une dépolitisation de la gestion des villes. Ils étaient bien sûr recrutés sur la base de leurs compétences et ils seront apparus très rapidement comme l'incarnation de ce pouvoir objectif dont on espérait qu'il permettrait de débarrasser le pays de ce qu'on appelait le poison partisan. C'est donc par la réduction du champ de la politique, par l'accroissement du pouvoir administratif et gestionnaire que l'on entendait, encore une fois, poursuivent la réalisation d'intérêt général. Et c'est d'ailleurs à cette période que le néologisme technocratie sera forgé pour désigner un système de gouvernement dans lequel les ressources de la nation sont organisées et contrôlées par des experts pour le bien collectif. Le pouvoir administratif était bien considéré de la sorte comme étant d'essence substantiellement démocratique et réalisant ce qui était de l'ordre de l'exécution. L'administration, l'affirmation d'un pouvoir objectif et impartial, identifié à l'intérêt général, a également trouvé sa place en Europe, mais dans des conditions avec une portée différente du cas américain. Les cas allemands et français ont été les plus significatifs à cet égard. En Allemagne, l'industriel Walter Rathenau, qui était à un moment ministre de la Reconstruction, il était aussi le patron de AEG, la grande entreprise, avait mis l'accent, avec beaucoup de succès, en tout cas d'écho, sur la nécessité de faire de l'administration un lieu de pouvoir neutre et inviolable. Et l'article 130 de la Constitution de 1919 avait formellement stipulé que les fonctionnaires sont les serviteurs de la collectivité, non des partis. Mais l'idée était en Allemagne restée ambiguë. Il s'était plus agi de prolonger, d'un certain point de vue, la vision prussienne et même l'œuvre administrative prussienne que de formuler un véritable impératif démocratique. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué que Carl Schmitt se sera fait un défenseur acharné d'une telle vision d'État objectif, et notamment dans ses commentaires de l'article 130 de la Constitution, parce qu'il y voyait un moyen de lutter contre le parlementarisme et l'État des partis. Et c'était aussi contre le règne des suffrages universels qu'il célébrait avec d'autres ce pouvoir substantiel de l'État dont l'article 130 de la Constitution était une expression. L'état d'esprit était comparable dans la France de 1918. Je n'insiste pas sur ce point, de nombreux ouvrages ont souligné que l'administration devait exister, devait vivre d'une vie propre en dehors de la politique. Il y a même certaines formules frappantes dans un ouvrage justement célèbre de l'époque, Le pouvoir administratif. Henri Chardon écrivait « Chaque fonctionnaire doit être considéré non comme le délégué d'un ministre à l'exécution d'un service public, mais comme le représentant technique d'un intérêt permanent de la nation. » Et il allait jusqu'à dire que de cette façon, le plus petit des fonctionnaires est le gouvernement lui-même lorsqu'il exerce ses attributions. Certes, le pouvoir politique conservé pour ces gens son utilité et sa légitimité, mais il ne pouvait jouer son rôle que s'il était simultanément reconnu la légitimité et l'indépendance du pouvoir administratif. Et là aussi, c'est à mi-voix le poids des capacités qu'on entendait renforcer en célébrant le pouvoir administratif. L'ambiguïté était permanente sur ce point pendant cette période. La critique de la démocratie comme pouvoir du nombre, sous-tendant en effet souvent, de façon plus ou moins explicite, l'appel à consacrer l'instauration d'une administration efficace et non partisane en figure désirable du pouvoir exécutif moderne. C'était donc à nouveau une façon de sortir cette question de l'exécutif du champ de la démocratie. Nous avons vu ainsi comment il y a eu trois façons de radicaliser la pensée de l'exécutif, à travers sa concentration sous les espèces publicitaires, ou au contraire, ou sa polarisation sous les espèces de l'exception, ou au contraire, sous les espèces de sa séparation du monde politique et démocratique dans la vision technocratique. Ce sont trois pôles qui ont aussi dessiné trois tentations, et qui se sont ensuite, pourrait-on dire, banalisés, qui se sont amendés, qui se sont civilisés d'une certaine façon, en composant de façon plus nette avec un certain nombre d'impératifs démocratiques. Le pouvoir technocratique existe, mais progressivement, il s'est imposé sous les espèces de la gouvernance, qui est une façon d'associer aux décisions, non pas simplement la sphère administrative, mais la société civile. De la même façon, L'exception trouve toujours son rôle dans les démocraties contemporaines. Mais même si certains penseurs comme Agamben ont fait de cette exception, je dirais, la vérité quotidienne du pouvoir, l'interprétant dans des termes proches de Carl Schmitt, même si c'est de façon, peut-on penser raisonnablement, beaucoup plus limitée que le recours à l'exceptionnel existe, le recours à l'exception est aussi une ligne de pente forte des exécutifs modernes. L'exécutif est donc dilué dans la gouvernance, en partie reporté sur des formes technocratiques ou c'est des formes d'autorité indépendante. L'exécutif conserve cette zone en quelque sorte de non-démocratie à travers l'exécutif, mais il y a surtout eu ce qui est fondamental dans la démocratie moderne, une sorte d'adaptation du plébiscitarisme sous les formes de sa routinisation. Donc, cette routinisation, on peut l'appeler le développement du présidentialisme dans les démocraties modernes, et c'est cette question que je vais traiter tout à l'heure. Je vous rappelle avant de reprendre la parole tout à l'heure que donc la semaine prochaine commence le séminaire, mais vous verrez le séminaire, il est dans la ligne directe du cours puisqu'il sera consacré aux questions du référendum. Le référendum est aussi une façon, un mode, pourrait-on dire, de polarisation de la démocratie, un mode de polarisation procédurale. Et avec les différents intervenants, nous analyserons les problèmes posés par cette polarisation procédurale de la démocratie sous les espèces du référendum, avec évidemment des problèmes très immédiats, notamment quand la personne qui viendra de Suisse, M. Papadopoulos de l'Université de Lausanne, pourra nous commenter les usages actuels du référendum et de l'initiative populaire dans la Confédération helvétique.